que le Seigneur parle à travers moi. Et non pas moi qui parle à travers le Seigneur. J'aurais du mal. Il me faut de la table. J'aurais du mal. Parce que c'est pas simple d'être là, de devoir apporter la parole du Seigneur. Ce qui me permet de demander au pasteur de mon sort, est-ce qu'avec le temps, c'est plus facile ou moins difficile?
Non.
Non. Merci, sœur Michel. Merci pour cette franchise. En tout cas, je veux ce matin parler d'une rencontre, d'un épisode de la vie du Seigneur Jésus. En Jean chapitre 5, les 15 premiers versets où Jésus rencontre, vous savez, cet homme se paralysé. Et parcourir ces 15 versets sous trois volets. Jésus avec ce malade, le malade avec Jésus ou envers Jésus, et puis le malade avec les autorités. Et tout en parcourant ce texte, nous conforter dans ce que nous sommes, à savoir, non seulement des enfants de Dieu, non seulement des disciples du Seigneur, mais nous conforter à continuer d'avancer avec lui en priorité et même avec lui seul. Et je vais essayer de, quelquefois, quand le texte ne dira pas telle ou telle chose, de faire dire au texte, non pas ce qu'il ne dit pas, mais qu'on pourrait imaginer. Un mot de spécialiste. Je lis Jean chapitre 5, verset 1 à 15. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés. Des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?»« Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je m'entraîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait le jour du sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Mais, répliqua-t-il, « celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » Et qui t'a dit cela ? Lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était. Car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait dans cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen.
Amen.
Que Dieu nous aide à comprendre sa parole de manière juste et vraie. Où se déroule cette scène? Elle se déroule à Jérusalem. Lors d'une fête juive, dont, en tout cas, le nom n'est pas fait mention, le nom de cette fête juive, mais les commentateurs pensent qu'il pourrait s'agir de la fête de Pourim qui tombe en février ou mars. C'est cette fête qui a été instituée dans le livre d'Esther, où Esther et son enfant Mardochée ont réussi à déjouer un plan d'extermination des Juifs. À Jérusalem, il y avait plusieurs portes pour accéder à la ville. Et donc, l'une d'entre elles, la porte des brebis, près de l'une d'entre elles, se trouve une piscine dénommée Bethesda, entourée, ils ont imaginé, de 5 galeries. Dans chacune de ces galeries, il y a des malades en tout genre. Celui-là vient pour sa jambe, un autre pour sa tête, il y a des aveugles, il y a des paralysés. Les galeries en sont remplies. Imaginons la vision. Je ne vais pas m'avancer à donner un nombre de chiffres, mais à mon avis, il y en avait beaucoup. Et Jean s'arrête sur celui qui interagit avec Jésus. En tout cas, sur celui, c'est sur ce malade que Jean s'arrête. Un homme malade depuis 38 ans, paralysé depuis 38 ans. J'essaie d'imaginer, ceux qui ont plus de 38 ans, c'est plus facile pour vous. Moi qui n'ai que 33 ans, je n'imagine même pas qu'est-ce que c'est 38 ans. Paralysé. Vous avez remarqué, dans certaines Bibles, en tout cas la mienne, le verset 4 est encore proche. J'ai une Bible à la maison, le verset 4 n'y est pas. Il est carrément dans les commentaires. Parce que, dans toutes les Bibles, en tout cas dans la découverte des premiers papyrus, on va dire, des évangiles, eh bien, ce passage manque, en tout cas dans les plus anciens. On pense que ce verset 4 a été rajouté pour comprendre le texte. Et que dit ce verset 4? Ce verset 4 dit, il, donc après le verset 3, on termine le verset 3 pour bien comprendre, ou le verset 2, oui, le verset 3, ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Et ce verset 4, qui aurait été rajouté, dit, ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Alors, ceux qui sont les spécialistes, on va dire, parce que ça a été ajouté pour comprendre. Mais on va comprendre aussi avec ceux qu'ils ont ajouté. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Un peu plus loin, dans la lecture au verset 7, effectivement, il est fait mention de cette eau qui bouillonnait. Et en faisant des recherches, Isabelle a trouvé qu'il y avait 2 bassins dans la piscine qui étaient alimentés par des grands réservoirs, qui étaient appelés les réservoirs de Salomon, et quand ils recevaient de l'eau en provenance de sources sur le passage, dit intermittent, eh bien ça créait un bouillonnement. C'est une explication normale et plausible. Certains témoignages de même évoquent qu'il y avait une teinte rougeâtre dans l'eau, qui était probablement due à des facteurs géologiques. Mais les gens à l'époque considéraient que c'était une intervention ou que c'était médicinal. On a une explication normale, en tout cas attestée par des spécialistes, par des géologues. Mais on va y revenir. Continuons dans notre texte. Continuons à descendre. Que va faire Jésus? Au verset 6, il est dit, Jésus sut qu'il était là depuis longtemps. Comment Jésus l'a-t-il su? Est-ce que c'est parce qu'il connaît toute chose? L'homme est là. J'essaie de faire une hypothèque. L'homme, peut-être, avait l'habitude de dire à tout le monde qu'il était malade depuis longtemps, pour susciter de l'empathie, pour susciter toutes sortes de sentiments. Même si on est d'accord que la Galilée est remplie de malades. Donc pourquoi lui et lui plutôt qu'un autre? Mais en tout cas, peut-être que Jésus l'a ainsi appris. Peut-être aussi il était porté tous les jours à cette piscine, je suppose qu'il dormait pas là, durant plusieurs années, dans l'espoir d'être guéri. Peut-être que Jésus apprend cela après avoir interrogé le malade, peut-être, et puis que cela ne nous est pas rapporté, qui sait? Mais en tout cas, il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que Jésus, lui, connaît toutes choses. Donc, même si peut-être, Jésus connaît toutes choses, et rien ne lui est caché. Il est donc possible qu'il ait connu la maladie de cet homme, parce qu'il connaît toutes choses, de manière surnaturelle. La suite nous dit que Jésus pose une question à l'homme, il lui demande s'il veut être guéri. De même, pourquoi Jésus lui pose la question? Lui qui sait tout, ne sait-il pas que cet homme malade depuis 38 ans, bien sûr qu'il veut être guéri. Mais il lui demande quand même. Et ça m'a fait penser la semaine dernière. La semaine dernière, dans sa prédication, effectivement, le monde nous disait que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas que nous lui demandions. Il se peut que la maladie, les difficultés, devant tout cela, nous relâchions. Nous attendions que ça passe ou que ça se passe. Et que nous disions par exemple, et je le cite, je n'ai pas de frère et de soeur pour porter avec moi cette difficulté. Plutôt que de se tourner vers le Seigneur. Et qui dit se tourner vers le Seigneur dit lui dire. Et nous avons toujours, est-ce qu'on prie pour nous-mêmes? Est-ce qu'on prie pour nous, nos difficultés? Ou est-ce qu'on le fait intensément, avec persévérance, dans la durée, pendant des années, ou est-ce que lorsque la difficulté est là, la solution c'est le dire à l'église, le dire en réunion de prière et attendre que ça agisse, que les prières agissent. Jésus s'intéresse à l'homme autant qu'il s'intéresse à nous. Il connaît toutes choses, mais il veut qu'on lui dise. Il veut entretenir une relation avec nous. Pour cela, il faut que nous lui parlions. Si on veut entretenir une relation avec quelqu'un, il faut parler à la personne. Il faut lui parler, il faut qu'elle nous parle. En gros, il faut qu'on ait une relation. Des discussions, des prises de rendez-vous. Mais c'est ponctuel, alors qu'avec le Seigneur Jésus, ça fait tout le temps. Quelle grâce. Tout le temps. Dans notre sommeil, il veille sur nous. Quand on est en communion avec lui dans le sommeil, pour moi, c'est comme si on est en communion avec lui. L'homme répond à Jésus, Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avec moi. Avant moi, pardon. La réponse de cet homme n'est-elle pas aussi surprenante que la question de Jésus? Jésus qui sait tout lui demande, et lui n'aurait-il pas pu répondre, oui, je veux être guéri, puisque depuis près de 40 ans, il est comme ça. Pourquoi ne répond-il pas carrément, oui? Ou à la limite, mais que me demandes-tu là? Non, mais je n'ai personne pour m'y plonger. On peut comprendre que cet homme était d'accord avec cette croyance populaire, selon laquelle la première personne, et seulement elle, qui entrait dans l'eau, était guérie. Il est en train de dire, j'ai personne pour me jeter dans l'eau en premier. au lieu de répondre oui ou à la limite, tu n'entends pas ce que tu me demandes. Non, non. Il n'y a aucun élément, en tout cas, de l'époque de Jésus qui permet d'attester cette croyance. C'est de la superstition. Et on verra que Jésus, lui, fera fi de cela. Nous savons que c'est Jésus qui délivre telle ou telle emprise. Il l'a fait à la croix, une fois pour toutes. Tant que c'est lui qui guérit. Mais quand frère un tel ou pasteur un tel est spécialiste de guérison, n'est-ce pas de la superstition quand nous avons plus foi en cet homme plutôt qu'en Jésus qui a cloué toute maladie et la mort à la croix? Évidemment que l'Esprit donne des dons et des capacités. Évidemment, pour l'édification de l'Église, ça veut dire que l'attitude va avec. Est-ce qu'une, ça ce n'était pas prévu, j'y pense, est-ce qu'une campagne, non, en tout cas, Jésus est celui qui guérit tout, il en est capable. À la réponse superstitieuse du paralysé, Jésus, lui, il va déployer sa bonté. Sans fin, en faisant quoi? En guérissant le mal. Malgré sa réponse superstitieuse. Et remarquons bien, sans lui dire autre chose. Pourquoi il le fait? Pourquoi ne le reprend-il pas? Pourquoi il le guérit? Sa réponse montre que Jésus ne s'attend pas. Non, la réponse de l'homme montre que ce n'est pas Jésus qui l'attend. Hein. Il n'attend pas qu'un homme le guérisse, ou il attend l'eau. Il attend que quelqu'un le pousse. Jésus. De plus, le texte n'indique de sa part aucune foi. Jésus est quelqu'un comme nous autres. Ne connaissait-il pas Jésus? Je ne sais pas. Jésus s'était remarqué quand même. Ça devait parler. Que cet homme qui tient tête aux pharisiens, qui dit ci, qui dit ça. N'a-t-il pas entendu que Jésus guérissait, a relevé? Nous ne savons pas. Dans la plupart des récits des évangiles, le malade fait une démarche de foi. Mais ici, rien du tout. Ce récit nous montre non seulement la bonté de Jésus, mais le fait qu'il est venu pour accomplir les œuvres du Père. Et il n'est pas limité par l'attitude du malade, encore moins par la maladie. Il est souverain. L'initiative souveraine lui revient. C'est lui qui prend l'initiative. Sans qu'aucune justification ne soit donnée à ce choix. Jésus ne va pas tenir compte de cette parole, il va uniquement tenir compte de ce qu'il est venu accomplir. Il guérit cet homme. Simplement, sans lui faire de reproche. Et il le fait encore aujourd'hui. Nous avons peut-être des amis ou de la famille qui n'est pas encore en Jésus. Et pourtant, quand il est malade, on prie pour lui. Alors, en tant que disciple fidèle du Seigneur, on prie pour le salut de son âme. Mais on prie aussi pour qu'il soit encore. Et Jésus est capable de le faire, et il le fait. Mais n'attend-il pas un pas de foi supplémentaire quand, par exemple, ce non-croyant est rétabli? N'attend-il pas autre chose après? Je t'ai guéri. Tu l'as vu? de manière surnaturelle. Tu as un cancer, tu ne crois pas en moi, du jour où on a donné ton cancer à ton vie. N'y a-t-il pas une reconnaissance qu'attend Jésus? En tout cas, il le fait encore aujourd'hui. Mais c'est de sa propre initiative. Nous, notre devoir, c'est nous mettre à genoux. Lui, il fait ce qu'il veut. Ses voies ne sont pas nos voies, ses plans ne sont pas nos plans. La perfection lui appartient. Un choix de Jésus n'est pas compréhensible pour nous. Nous comprenons ce qu'il veut nous faire comprendre. Mais il est parfait. Chaque fois que quelqu'un dit « Viens à Jésus et tu seras guéri », ce n'est pas l'évangile de Jésus. Il y avait beaucoup de malades dans cette galerie. Rien n'indique que Jésus en a guéri d'autres. Beaucoup plus près de nous. D'après les témoignages unanimes qu'on a pu entendre, j'ai pu entendre, la jeune sœur Déborah, Matidika, était exceptionnelle pour et devant son Dieu. Elle n'a pas été. Elle a été délivrée. Elle goûte déjà à la félicité céleste. Suite à la réponse de l'homme malade, et sans même donner un commentaire sur ce que l'homme lui a dit, eh bien Jésus le guérit. Il lui dit, eh bien, lève-toi, prends ta natte et marche. Voici la réponse de Jésus. À l'instant même, l'homme fut guéri, nous dit le verset 9, il a pris sa natte et il s'est mis à marcher. Sa réaction est surprenante. Cet homme n'attend pas, n'attend rien de Jésus. Jésus le guérit. Enfin, Jésus lui dit une parole et aussitôt il s'exécute. Alors qu'il ne croit pas en Jésus. Pourquoi est-ce qu'il s'est levé? Est-ce qu'il a ressenti en lui-même qu'il était guéri? Est-ce qu'il a ressenti quelque chose? Et certains ont déjà eu peut-être une telle expérience. Un mal dans le corps, ou un mal-être, ou une dépendance. Et subitement, nous ressentons que nous sommes guéris, délivrés. Nous avons certainement prié pour cela, mais un bon matin, on a la conviction qu'on est guéri. La parole puissante de Jésus a guéri l'infirme. Et puis Jésus lui donne un commandement, prends ta natte et mange. Ce commandement de Jésus, que Jésus donne à l'infirme, rappelle également la guérison de notre malade, dans Marc 2, verset 11. Quand Jésus lui dit, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Ouais, on a l'impression qu'après une guérison, Jésus donne une directive. Mais c'est pas comme ça. L'homme a dû sentir qui c'est une force immédiate, l'habiter, qui le pousse à obéir à l'ordre reçu. Ça nous montre le caractère de Jésus, plein de compassion, plein d'amour, qui s'intéresse à l'être humain, qui a le pouvoir sur les situations. Alors même que l'homme n'en a rien à faire, lui va au-delà de cela. Il agit de même pour nous. Parce que notre imperfection nous empêche de vivre comme il faudrait avec lui. Et quand même ça, il nous fait grâce. Continuons dans la lecture, on a une opposition, une rencontre des Juifs zélés pour la loi face à l'homme guéri. À peine est-il guéri qu'il a fait mention du sabbat. Que fais-tu là? Tu n'as pas le droit de porter cette natte, c'est le sabbat. En plus, il y a ce mais, cela se passait le jour du sabbat, le mais. Qui manque quelque chose Jésus a fait ça, ok? Mais c'était le jour du sabbat. Pas possible. Au verset 10, c'est juste interpelle l'homme. Tu n'as pas le droit. En effet, l'Ancien Testament interdisait de travailler le jour du sabbat. Mais pour les pharisiens avaient développé des lois sur les lois, créant une sorte de haine autour des 10 commandements pour être sûr de ne pas en faire. Ils étaient au nombre de 39 catégories. Et dans l'une d'entre elles, le fait de porter son lit le jour du sabbat était un travail. Et donc, constituait une transgression de la loi. Non pas une transgression de la protection qu'ils avaient mise, mais de la loi elle-même. C'est absurde. En réalité, cela n'enfreignait aucun commandement de Dieu. Mais l'interprétation qu'ils en ont fait, pour eux, oui. Ils ne s'intéressent et ils ne s'intéressaient qu'à la loi, même pas à l'homme qu'ils avaient vu dans cette galerie certainement depuis des années. Ils n'ont même pas été marqués par le miracle qui vient de se faire. Ils ont été incrédules, plongés dans leur légalisme. Malgré le miracle fait devant eux. Leurs prescriptions ont plus de valeur que la vie, que la santé d'un être humain. Et quelquefois, il m'est arrivé, dans le cas par exemple où un frère ou une soeur se retrouve dans une position de chute, de faiblesse, quand nous apprenons qu'il fait telle ou telle chose le dimanche plutôt que de venir au culte, et bien avoir le légalisme facile. La calomnie, la médisance nous envole si facilement. Donc, nous avons veillé sur nos voies. Pour ne pas être des légalistes. L'homme répond au chef religieux, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Les chefs religieux cherchent donc à savoir qui est-il. Est-ce qu'ils se doutent que c'est Jésus, puisqu'ils ont entendu parler de lui? Est-ce qu'au contraire, c'est juste parce qu'ils veulent savoir qui a dit à cet homme d'enfreindre le sabbat? C'est tout ce qui les intéresse. Eh bien, ils demandent cela à l'homme. Ils sont préoccupés par le respect de la loi. Cet homme avait son attitude envers Jésus. Maintenant, la suite du texte. Jésus lui a dit une seule parole. Non, cet homme dit une seule parole à Jésus, on l'a vu, c'est au verset 7, mais si personne ne me pousse, c'est tout ce qu'il a dit. En plus, il ne répond même pas directement à la réponse du Seigneur. Mais la réponse de cet homme nous montre autre chose, de plus sombre. Au verset 11, on peut voir que l'homme esquive l'interrogatoire des autorités et qu'il accuse celui qui l'a guéri. C'est celui qui m'a guéri qui m'a dit. Lui aussi, la reconnaissance n'est pas son fort. Jésus l'a guéri, il parle. Donc on peut s'imaginer que le texte, la Bible nous relate quand les hommes sont reconnaissants, les malades, et quand ils ne le sont pas. Lui, quand Jésus lui a dit ça, quant à la témoin, il a pris sa natte et il est parti. Voilà. Laissant Jésus en plein. Donc du coup, qui c'est qui m'a guéri? Mais c'est pas moi. Mais je suis guéri. Il esquive et il accuse. Il n'est même pas capable de donner le nom de celui qu'il accuse. Il ne cherche pas non plus à connaître l'identité de celui qu'il a guéri. Il manque de reconnaissance. Et je pense qu'un peu plus tard, on verra que Jésus le met encore contre ça, peut-être. Il ne manifeste aucune reconnaissance. Il trahit celui qu'il a guéri. Et Jésus va lui donner une recommandation. Au verset 14, il lui dit, te voilà guéri, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Jésus, certainement, il a délivré des démoniaques, qui avaient comme signe extérieur la maladie. Donc, Jésus est en train de certainement dire qu'il y a des maladies qui sont en rapport avec le péché. Mais il y a des maladies qui ne sont pas en rapport avec le péché. Tabitha, cette jeune fille, ce n'était pas en rapport avec le péché. D'autres, oui. Donc, il y a comme ça, dans le courant de la théologie, aussi bien juive que chrétienne, et bien cette tension entre le côté malade et le côté péché. Il y a, mais pas toujours. Mais certainement aussi, le Seigneur Jésus le met en garde contre le manque de reconnaissance et le manque peut-être de le suivre. Qu'il ne t'arrive rien de pire, c'est-à-dire, je t'ai guéri, et puis, fais gaffe de ne pas rester comme ça. Parce que pire que la paralysie, c'est la mort spirituelle. N'est-il pas en train de lui dire, je t'ai guéri, maintenant toi, suis-moi. On dit, maintenant, donne-moi ta vie. Et Jésus ne parlait pas comme ça. Il disait, toi, viens, suis-moi. N'est-il pas en train de le mettre en garde contre une sorte de léthargie, une sorte de complaisance dans sa guérison? Tandis quand tout va bien, on n'a pas besoin de Jésus. Hein? C'est ce qu'on pense. Et puis on est rappelé à l'ordre dans les situations de la vie qui ne manquent pas de nous heurter. Mais quand on s'éloigne du Seigneur, on est capable de fléchir. Restons au pied du Seigneur. Dans les bons moments, retenons la parole. Apprenons-la. Retenons-la. Cultivons notre vie de prière pour les temps difficiles, pour que nous soyons debout en Jésus pour les affronter. Au verset 15, lorsque cet homme apprend que c'est Jésus qui l'a guéri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dénoncer Jésus aux autorités. Est-ce que vous l'avez vu ça? Il apprend puisque Jésus est venu à lui la deuxième fois, maintenant il sait qui est Jésus, et au lieu de prendre en considération cette recommandation de Jésus, il va le dénoncer aux autorités juives. Qu'est-ce qui le pousse à agir de cette façon? Il cherche à se faire bien voir des autorités, tout simplement. Il a une conception du devoir qui l'incite à obéir aux ordres. Et il a peur d'être mis, déjà qu'il était au banc de la société, puisqu'il était paralysé. Il a une chance d'y faire son entrée dans cette société. Il ne va pas compromettre cela en suivant quelqu'un qui le fait désobéir à la loi et le mettre en tant que paria aux yeux des autorités. Eh bien, il va tout simplement choisir de trahir celui qui l'a guéri. Il craint les autorités, lui. Il ne veut pas s'activer dans lui. En gros, il préfère se soumettre à la loi plutôt qu'à Jésus. Et dans le sillage de mon frère dimanche dernier, je ne fais pas de politique. Mais nous sommes aussi dans ce temps où les autorités conçoivent des lois où nos valeurs, nos conceptions et tout simplement l'obéissance aux écritures peuvent nous mettre en tant que paria de la société. Ça fait bien longtemps que ça a commencé. Je pense que cela va s'intensifier avec les années. Mais cela peut nous coûter cher si nous restons ancrés en Jésus. Dans certains pays, c'est déjà le cas pour nos frères et sœurs. De qui avons-nous craint? craignons-nous le Seigneur Jésus ou les hommes? Jésus a un regard sur tout ce que nous faisons. Les hommes, non. Ils cherchent à avoir un regard sur tout. Ils vont encore chercher. Mais ils ne le trouveront jamais parce qu'ils sont plusieurs et qu'ils ne sont pas à plusieurs endroits. Le Seigneur Jésus est partout et il voit le moindre recoin de nos vies. Sur chaque aspect de sa vie l'intéresse. En tant que chrétien, nous devons décider de ce qui est le plus important pour nous. Demeurer en Jésus, ou suivre les hommes. En tout cas, craindre les hommes plus, même pas plus, craindre les hommes tout court. Parce que nous sommes appelés à respecter les autorités, mais pas à les craindre. En revanche, nous sommes appelés à craindre Dieu. Est-ce que nos paroles, nos propos, tout ce qui sort de notre bouche, eh bien, sont empreints d'amour et de respect? Comment réagissons-nous lorsque nous discutons avec quelqu'un qui se met à critiquer notre personne? Par crainte de son attitude, donc peur des hommes, est-ce qu'on le laisse faire ou est-ce que par crainte pour Jésus, on l'arrête en disant que nous, on n'agit pas comme ça? En repensant à ce récit, et particulièrement à ce que le Seigneur Jésus a fait pour cet homme, quand même, je me dis que quand on croise le Seigneur Jésus, on ne peut pas rester indifférent. Cet homme a poussé le bouchon en restant indifférent. La Bible ne nous relate pas sa fin, la fin de cet homme. Mais en repoussant le Seigneur Jésus, parce qu'il n'a pas du bien fait. On ne peut pas rester indifférent quand Jésus croise notre chemin. On ne peut plus rester le même. On va automatiquement se mettre à dos la majorité de la société, certains membres de notre famille, et nous y sommes en plein dedans avec Isabelle. Ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Comment nous accepterons? La situation de cet homme semblait désespérée. Jésus l'a guéri physiquement. Mais il n'a pas reconnu cela. Jésus guérit les maux physiques, mais plus que cela, il guérit les cœurs malades à cause du péché. Il est celui qui change toute vie. Même celle qui semble désespérée. Et tous ici, nos vies étaient désespérées. Quelquefois, nous le savions, que nous étions au bout du rouleau, mais si nous avions une bonne situation, on ne s'en doute pas. Les hommes politiques, pour eux, sont dans une bonne situation. Ils sont au pouvoir. Mais leur cœur est malade. Ils ont besoin du Seigneur Jésus. Entretenons notre relation avec le Seigneur Jésus. Passons du temps avec lui. Cherchons de tout notre cœur à lui plaire. Il a fait de nous deux personnes nouvelles et il a changé notre cœur quand il a croisé notre chemin. Ne soyons pas comme cet homme qui a préféré plaire aux hommes plutôt qu'à Jésus. Affirmons notre identité en Christ. Soyons fiers d'être des hommes et des femmes de Dieu. Continuons chaque jour à manifester la reconnaissance de l'amour envers lui. Parce qu'il a croisé un jour votre chemin. Amen. Amen. Nous étions appuyés.